Vous êtes sur Radio Girafe Normandie, je suis Raphaël, le F de Girafe. Pour notre première émission, quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur, je reçois Julien Burger. Julien est un entrepreneur havrais et dirigeant de la franchise Classe-Croûte sur Le Havre-sur-Rouen. Alors Classe-Croûte est une franchise nationale de 130 restaurants spécialisés dans la restauration haut de gamme pour les entreprises et les particuliers. Je vous propose donc maintenant de découvrir le parcours de Julien en quelques minutes dans la vie d'un entrepreneur. Bon alors bonjour à tous, on est sur notre première émission, on a la chance de te recevoir aujourd'hui Julien, donc tu es la première émission de cette première saison.
Merci, c'est un honneur.
Ouais, j'espère. Tu vas donc être notre cobaye en quelque sorte. Hein.
C'est un honneur.
On va essayer d'échanger ensemble sur ton parcours. Donc je t'ai rapidement présenté, en tout cas j'ai présenté ton activité. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers Classe-Croûte. Est-ce que tu peux nous faire une rapide présentation de ton activité?
Alors en fait, mon activité, elle vient d'un mode de consommation que j'avais, c'est-à-dire que j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que commercial, en implantant d'abord les aspirateurs Dyson en France, et ensuite chez LG, qui est un industriel coréen, toujours dans l'électrodomestique. Et en sillonnant la France, et en étant souvent en restaurant, et en étant aussi quelqu'un d'un peu impatient, je me lassais des brasseries où le déjeuner est long, interminable. Et donc, mon souhait, mon idéal, c'était d'imaginer pouvoir manger une tomate farcie dans un McDo.
Ah, donc ça, c'est
c'est-à-dire combiner le patrimoine culinaire français ou toute la cuisine de nos grands-mères, hein, globalement, de le manger dans un restaurant qui soit quelque chose de fluide, quelque chose de simple, rapide. C'est-à-dire qu'en fait, attendre la carte, attendre l'addition, attendre le café, c'était pour moi trop long. Chronophage.
Mais t'es pas un amoureux de la gastronomie à la base. Je veux dire, c'est pas la cuisine. Tu fais de la cuisine. C'est ça qui t'a poussé ou c'est plus le secteur d'activité?
Alors j'aime bien cuisiner, assurément. Et puis de par mon père gastro-entérologue, j'ai toujours mangé de façon équilibrée et pris conscience de cette nécessité. Et quand on a finalement ces valeurs-là, on peut tout à fait se régaler. Avec des vieilles recettes. Je vais reparler de la tomate farcie. On n'est pas obligé de manger un hamburger pour se faire plaisir. Il y a plein d'autres choses. Il faut juste le savoir et savoir le savourer.
Et alors, dans ta démarche, tu t'arrêtes, donc tu dis, tiens, ce secteur m'intéresse, en tout cas, ce domaine d'activité m'intéresse. Comment tu as t'as déroulé ta recherche pour finalement arriver à te positionner sur une franchise Classe-Croûte? Parce qu'il y en avait d'autres, parce que question qui est au fond, c'est est-ce que tu aurais pu monter une boîte from scratch en disant, bah, moi je vais faire de la restauration comme beaucoup se lancent, mais en dehors d'une franchise?
Oui, tout à fait. À ceci près, c'est qu'en fait, dans ma vie professionnelle précédente, j'avais différents clients. Et j'avais notamment dans mes clients un réseau qui s'appelle JTEM, qui est un réseau qui est composé d'indépendants. Et ces indépendants avaient une force de frappe, à l'époque où j'officiais, JTEM avait une force d'achat supérieure à celle de Darty en France.
Ouais.
Et si Monsieur Eudier, qui écoutera peut-être un jour cette émission, en est arrivé là, c'est aussi grâce à JTEM en fait. Et donc, from scratch, tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'avais compris, par cette activité, la force des réseaux, la puissance des réseaux, qui permet... En fait, c'est une association. Hein. La franchise, c'est du commerce associé. Donc, il y a une indépendance, mais une association qui donne cette puissance.
Donc, tu voulais pas... Oui, il y a toujours... On parle de la solitude de l'entrepreneur. Finalement, tu allais rechercher un réseau. Ça rassurait peut-être un peu.
Alors, ça rassure d'une part, parce que quand on est un jeune créateur, on est toujours plus fort quand on est accompagné par des gens qui ont déjà réussi. L'intérêt, c'était surtout d'avoir une capacité à démarrer beaucoup plus vite.
Et aussi. Et quand tu parles de cette capacité à démarrer plus vite, tu parles effectivement, on va aborder
la croissance de chiffre d'affaires.
Donc le financement aussi, parce qu'il y a un vrai sujet de financement.
Alors le financement, il est plus facile parce qu'effectivement, on part sur une activité qui est connue, reconnue, qui a montré son efficacité. Et c'est plus simple de trouver le financement, en effet.
Et au début, alors on a compris que tu t'étais orienté par choix parce que t'as eu cette envie et cette idée. Je crois me souvenir que t'étais associé.
Donc, tout à fait, oui. J'ai commencé aussi avec un associé, oui.
Et qu'est-ce qui a fait que... Alors peut-être si on revient à la même logique de ne pas être seul quand on se lance avec l'appréhension de, peut-être de se lancer en grand bain, ou est-ce que tu avais trouvé un associé avec lequel tu avais une affinité? Lui était peut-être de la partie, enfin je ne me rappelle plus bien. Mais...
Oui, on avait une affinité, c'était un copain, c'est un type qui venait de la restauration, donc ça facilitait encore la dynamique. D'autant que cette dynamique, elle est faite aussi par le principe même de la franchise. C'est-à-dire que la franchise permet de multiplier les centres de profit. Donc on peut commencer à deux sur une activité, et après, le fait d'être deux permet aussi de se déployer beaucoup plus vite sur des territoires vierges et déployer le concept de la franchise, en fait. Et à ce moment-là, on est toujours plus fort à deux aussi.
Oui, donc finalement, tu retrouvais peut-être dans la franchise le fait de pouvoir aller plus vite, parce que la franchise te permet...
C'est plus vite, c'est rassurant.
Et t'associer, ça permettait aussi de donner une place à chacun.
Alors ça permet de donner une place à chacun, ça permet aussi d'être plus fort, et d'être plus fort aussi dans son financement, puisque pour le coup, il y avait une masse d'apports qui était plus importante à deux que seul, et avec cette capacité à se déployer, c'est-à-dire qu'on vendait aussi à notre franchiseur, on était assez jeunes, et donc on vendait au franchiseur une dynamique, le fait d'être deux, c'était aussi une façon de l'appâter et de lui dire, bon bah voilà... Notre idée est celle-ci, on lance un premier restaurant et puis après on essaiera de se déployer au maximum. Comme nous sommes deux, à un moment, de toute façon, on va se marcher dessus, parce que c'est le périmètre de petites entreprises, hein, de toute façon, puisqu'un restaurant classe-coûte, ça fait entre 500 000 euros pour les plus petits jusqu'à 2 millions pour les très gros, mais la masse moyenne critique, c'est aux alentours de 700-800 000 euros. Donc à deux, sur une activité pareille, si on ne veut pas rester dans une activité de production quotidienne, le périmètre de l'activité n'est pas suffisamment grand, donc ça permettait de se dire on va se lancer et s'essayer avec un restaurant, et puis ensuite on essaiera de se déployer, puisqu'on est deux, ce sera d'autant plus simple.
Et là vous avez commencé historiquement War, vous avez monté le premier restaurant. War, on parlait de financement, on va terminer là-dessus, donc ça a été sur des fonds propre, vous avez chacun apporté votre apport, et la banque est de l'apport bancaire, j'imagine.
Ouais, tout à fait, réseau. Oui. On a amené entre 20 et 25% d'apport personnel.
Et après, vous avez
et le reste, c'était du financement bancaire.
Et un réseau aussi, il y avait un écosystème, on parle beaucoup de... Il y a des réseaux que tout le monde connaît, mais réseau Saint-Estuaire, réseau... Enfin, je ne sais pas, vous avez été un peu épaulé par l'écosystème local?
Alors oui, tout à fait. Hein, on a eu quelques... On a eu un taux après zéro par la CCI, je me souviens, à cette époque-là. C'est à peu près la seule chose. Et puis après, dans les réseaux havrais, en fait, moi, étant havrais, j'avais déjà un peu de réseau. Donc, le truc s'est fait un peu plus naturellement que par la force du travail et la volonté de profiter et bénéficier de ces réseaux, que ce soit Saint-Estuaire ouais. Entreprendre, que ce soit la...
Saint-Estuaire
Entreprendre, c'était la CCI, si je dis pas de bêtises, non, c'était ouais. Différent.
Il y a le réseau Saint-Estuaire et puis il y avait effectivement le réseau de la CCI. Donc on a vu un peu les tenants et les aboutissants sur le financement. Donc on a vu les avantages de la franchise. Est-ce qu'il y a une contrainte aujourd'hui qui vient tout de suite à l'esprit?
Sur le lancement d'activité, sur le démarrage,
Alors peut-être avec l'expérience. Hein,
non, il n'y a pas réellement de contraintes. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est avant tout, c'est pas choisir la franchise pour la franchise, c'est choisir un métier qui va correspondre à des attentes, à des, enfin, à un épanouissement personnel, quoi. Je veux dire, parce que la franchise. D'ailleurs, ça avait été la question de Jean-Marc Sonnet à l'époque, PDG de Classe-Route, qui m'avait dit, mais pourquoi pas Midas? J'ai dit Midas. Enfin, moi, j'adore les voitures et les vieilles motos, mais Midas, non. Moi, j'aimais. J'aimais la bouffe et je voulais manger ma tomate farcie dans mon McDo, quoi, en fait. Je me suis mis à chercher une enseigne qui allait... à un moment, la discussion naît avec cet associé, et puis on cherche à construire, à concrétiser la chose. Et donc, soit on y va seul, soit on trouve quelque chose d'existant, et on découvre qu'il y a cette enseigne Classe-Croûte, qui est une enseigne qui date de 1987, qui est assez peu connue, parce qu'elle est... terrée dans les zones d'activité tertiaires et surtout dans les grandes villes. Donc en tout cas, ouais, elle n'était pas connue.
Et, oui, c'est pas très B2C, c'est plutôt très adressé.
Alors c'est très B2B au départ, et puis au fil de la construction et de l'évolution de l'enseigne, c'est devenu un peu plus B2C parce que le client a demandé à un moment... Au départ, ça n'est que de la livraison, de sandwich, ou de... Oui, donc enfin... du sandwich. Donc c'est quand même B2C, mais à la fin, le B2C qu'il réclame, en fait, c'est quand même le chef d'entreprise. Et à la fin, le chef d'entreprise, il a une demande qui évolue, donc on va vers du plateau repas. Enfin, la gamme s'étoffe, mais toujours en livraison. Et puis ensuite, les clients ont dit, bon, pourquoi pas venir les chercher, puisqu'on passe devant. Puis à force de passer devant, ils ont voulu manger sur place, donc ils ont mangé sur place. En mangeant sur place, on s'est dit qu'on pouvait développer des plats chauds. Et la gamme s'est étoffée comme ça au fil de la... Enfin, très naturellement, en fonction de la consommation et du besoin des clients.
Alors là, on a abordé le secteur d'activité. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant de la complexité, parce qu'une fois qu'on a financé, qu'on a trouvé la franchise, du recrutement, parce qu'on sait que le recrutement, c'est un vrai sujet, c'est compliqué. Comment est-ce que vous avez, comment vous avez procédé, et est-ce qu'on vous avait donné une feuille de route, ou est-ce que vous y êtes allé un peu, parce que c'est compliqué, avoir trop de monde dans les phases de croissance, c'est difficile.
Oui, alors il faut toujours ajuster le volume de masse salariale, évidemment. Alors l'avantage, nous, c'est qu'on était deux, donc on avait une puissance de travail qui était conséquente, parce qu'on était jeunes et volontaires, et deux surtout. Ce qui se révèle être, 20 ans après, aussi une souplesse dans certains restaurants, le fait d'avoir un couple qui exerce et qui exploite un restaurant, ça leur donne une souplesse en cas de crise, parce qu'ils ont un volume de travail qui peut être supérieur à des salariés. Sur la masse salariale, l'adaptation au départ, la première chose la plus critique, c'est déjà de faire du recrutement tout court. Moi, je n'en ai jamais fait avant, donc on le fait et on n'est pas dans un jeu vidéo. Hein, c'est la vraie vie, on le fait pour soi avec des engagements. On connaît tous le droit social et ses contraintes, sa complexité et combien il peut verrouiller les relations entre les salariés et le chef de l'entreprise. Donc la première difficulté, c'est celle-ci. Après... on y va au feeling avec de l'intelligence et puis doucement et sûrement on acquiert de l'expérience et on construit son équipe. Après on a des ratios, le fait d'être dans une enseigne, on a des ratios à respecter. On fait ce qu'on veut. Hein. On reste un indépendant. Le franchisé est un commerçant indépendant, donc il choisit ses prix, il fait tout son PNL, mais néanmoins le franchiseur lui amène des valeurs, des grandes masses, de sorte qu'il trouve un équilibre dans son PNL, justement, et la masse salariale est une valeur parmi d'autres.
Oui, donc finalement, c'est intégré, mais il n'y a pas un soutien, le franchisier ne s'immisce pas dans tes choix de recrutement, dans le...
Non, pas tant que ça, en fait. C'est souvent une question qu'on me pose. On me dit, le franchiseur, surtout en cas de crise, quand il faut nous aider ou quand on voudrait chercher de l'aide, on se retourne toujours vers le plus fort et le plus gros, mais en fait, lui, il a une boîte à faire tourner et... Nous sommes associés dans une dynamique marchande et commerciale, mais néanmoins, nous sommes des entreprises distinctes et l'une ne peut pas payer pour l'autre. Quoi.
Et d'ailleurs, ça me fait me poser une question. Le modèle économique, vous reversez un pourcentage de votre chiffre d'affaires, comment ça marche?
C'est à propriétaire? Alors, c'est à peu près... c'est partagé dans tous les contrats de franchise, globalement, qui est un contrat de droit commun, d'ailleurs, hein, de contrat à contrat. Mais... on reverse une partie de notre chiffre d'affaires en royalties, d'accord ? Donc ça rémunère l'acquisition par le franchisé auprès du franchiseur d'une compétence, d'une notoriété, d'un savoir-faire. Et puis ensuite, il y a une participation de la part toujours du franchisé à un budget marketing. Et ce budget marketing est un pot commun, en fait, qui est géré par l'enseigne et qui développe des outils marketing, des supports marketing, une dynamique marketing... au profit de l'ensemble de ses cotisants qui sont donc ses franchisés.
Alors là on a abordé...
En l'occurrence, c'est 5 de royalties et 2 en marketing. Ah, puis après, il y a un peu de frais logistiques puisqu'on est une plateforme d'achat nationale, hein, on centralise, on fait des économies d'échelle comme ça. Et il y a quelques frais de référencement, des petites broutilles parfois qui chagrinent un peu au-delà du contrat.
Alors justement, ça m'amène à une autre question, puisque finalement, on voit quand même qu'il y a un aspect très normé dans la franchise, avec ce que ça a d'intérêt, puisque ça évite de se poser des questions, ça donne une forme de feuille de route. Comment est-ce qu'on fait pour innover dans une franchise? Parce qu'on a l'impression que finalement, on est un peu... On est en train de mettre en musique quelque chose qui a déjà été très très réglé. Est-ce qu'on peut innover? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre dans son activité? C'est quoi l'innovation chez Classroot, finalement?
Alors on peut innover de façon autonome, mais assez limitée, puisqu'effectivement, on a un métier qui est celui de la restauration, le midi en semaine, vers les actifs et les entreprises. Donc on peut avoir des modes de consommation qui évoluent un peu avec le temps et les crises, comme le Covid a pu le faire, ou un peu plus tardivement là, les problèmes d'inflation. Donc la façon de travailler des gens a évolué, donc on a imaginé des choses un peu différentes. Donc il y a eu des frigos connectés, on a fabriqué des e-cantines qui sont des sites dédiés pour des entreprises. Alors c'est à la marge, hein, évidemment, parce qu'on continue à faire le même produit, à le distribuer à peu près de la même façon. Mais effectivement, quand on est dans une franchise, le seul moyen vraiment d'innover, c'est de participer activement dans sa franchise au développement de nouveaux outils, de nouveaux produits. Parce qu'en fait, la franchise étant un commerce associé, il y a quand même une relation étroite, un partage du travail,
une mutualisation
de la pensée, de sorte qu'on puisse faire évoluer les choses. Donc il y a des commissions informatiques pour développer des outils informatiques, les rendre plus efficaces au quotidien. Pareil sur le produit, sur le marketing, sur l'activité commerciale. Enfin, il y a quelques grands métiers comme ça, communs à toutes les boîtes, hein, d'ailleurs, à toutes les activités. Voilà, et qu'on partage et qu'on essaye de développer. Donc le seul moyen d'innover, c'est celui-ci. Après, effectivement, on ne peut pas révolutionner un business qui n'est pas le sien. Parce que moi, je ne fais que payer pour adapter un concept à mon territoire.
Ok. Tu as évoqué, on va en parler parce que ça nous a tous marqué, la crise du Covid. Ton secteur d'activité a été particulièrement touché.
En effet.
Mais aidé aussi pour une partie, en tout cas soutenu, on va dire. Aidé, j'en sais rien, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, comment est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as traversé cette période-là. Est-ce que ça t'a bloqué? Est-ce que ça t'a peut-être donné l'envie d'arrêter? Ou t'as eu des peurs? Parce qu'un chef d'entreprise, c'est fait de succès, mais c'est aussi fait de peurs et parfois d'échecs. Comment est-ce que t'as vécu cette période-là? Qu'est-ce que ça a changé? On dit tout le temps qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. Là, c'est sûr que dans ton secteur d'activité, ça a été quand même marquant.
En effet, il y a un avant et un après. La bascule, c'est quand le président Macron nous dit que un jeudi soir, il nous dit dès vendredi, on ferme tout et puis on se met aux abris, on reste chez nous. Et là, effectivement, à ce moment-là, on a très peu d'infos sur la façon dont on va être soutenu, aidé, comment on va payer nos charges. Enfin, c'est juste abyssal. Ouais. Et là, le seul sentiment rassurant, c'est de se dire je ne suis pas tout seul, on est tous dans le même cas. Donc, de toute façon, le monde ne pourra pas s'effondrer. Il faudra bien que ça rebondisse. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faudra trouver le moyen de nous soutenir, mais à l'instant précis où il nous balance ça, on a zéro info, donc effectivement, c'est assez flippant.
Parce que là t'as la peur de tout perdre, parce que ce que tu dis, c'est intéressant, c'est le fait de dire, si je vis une situation seule, en tout cas...
Seul, c'est perdu.
C'est perdu, et
mais là, comme là, c'est tout le monde, voilà... En fait, non, c'est pas si stressant que ça, enfin, oui, c'est stressant, mais...
Tout le monde comprenait.
Le fait qu'on soit tous dans le même cas donnait une dimension particulière à l'information. Et dès lors, on attend patiemment. Et puis on essaye à un moment d'être un peu épicurien. Et on se dit, bon, voilà,
ouais, c'est
chez soi. Et on a fait des apéros en visio avec nos amis ailleurs en France ou dans le monde. Et puis voilà, quoi. Parce que tout le monde vivait la même chose. Moi, j'avais des copains en Chine, j'avais des copains aux États-Unis. En fait, c'était lunaire, quoi.
Non, c'est vrai que c'était une période...
Parce que c'était non seulement pas que nous, mais pas que Le Havre, pas que Paris, pas que la France, le monde. Et puis ailleurs dans le monde, bien pire. Hein.
C'est vrai qu'il
a fait 3 ans en Chine sans en sortir. Où là, vraiment, c'est une guerre nucléaire. Hein.
C'est pour ça que le côté psychologique est fort. Après, il faut se relever d'un truc comme ça. Donc économiquement, tu dis, est-ce que c'est une remise en cause? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis... tiens, je vais peut-être mon métier est vachement soumis à ce genre d'aléa qui peut peut-être se reproduire. Est-ce que tu t'es posé la question de te dire, tiens, j'ai eu 2 mois pour réfléchir, en tout cas, tu étais forcément dans l'activité, en tout cas, dans l'après, mais est-ce que tu t'es pas posé les questions de changement à ce moment-là?
Alors, en fait, la question de changement, c'est quelque chose qui... Enfin, ce qui nous suit un peu toujours, parce que vous lancez un business et ce business réussit, enfin, fonctionne... mais on se pose toujours la question de la lassitude. Est-ce qu'on sera toujours content de le faire 20 ans après?
Ouais.
On nous a appris à l'école qu'on changerait de métier plusieurs fois dans notre vie, en tout cas dans le salariat. Ça peut être vrai aussi dans l'entrepreneuriat.
Donc là, c'est un élément qui peut t'amener à se
poser... Alors là, effectivement, on se pose la question. Mais enfin, non, c'est tellement perturbant qu'en fait, là, on ne se la pose pas à ce moment-là. On se dit comment on va survivre. Parce que c'est bien d'imaginer un autre business. Mais d'abord, avant de changer de business, il faut sortir de celui dans lequel on est. Et là, dans la situation où on était, on ne pouvait pas sortir de toute façon. Mais néanmoins, la question se pose toujours. Alors après, le Covid, effectivement, a un impact sur notre activité. L'impact indirect, c'est la façon dont on travaille les gens. Le télétravail, qui éloigne des immeubles de bureaux. Je pense qu'il y a 2 jours de télétravail en moyenne, entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine. Ça fait entre 40 et 50% de gens qui ne se déplacent plus au bureau dans la semaine. Et donc, ça éloigne mathématiquement 40% de notre clientèle de nos points de vente.
C'est pour ça que c'est vachement intéressant, parce que ça veut dire qu'un élément extérieur, comme le Covid que personne ne pouvait prévoir, toi, tu es quand même un chef d'entreprise, tu investis, et on va en parler, tu n'es pas que sur le off, tu as été un peu ailleurs, tu dois quand même porter des investissements sur du long terme, tu te retrouves avec un changement de paradigme et de business model, parce que là, finalement, ça change un peu le business model. Je te parlais d'innovation, là, tu es obligé de trouver des solutions, parce que tu es chef d'entreprise, mais c'est compliqué tout ça.
Bah, là, l'innovation, elle n'est pas faite pour se développer, elle est faite pour résister.
Enfin, mais c'est ça,
il y a innovation, c'est innover pour essayer de tenir debout, quoi. Parce que le Covid est une première chose, hein, mais après, le deuxième effet qui se coule, c'est notre ami Poutine qui a envahi l'Ukraine. Et là, quand on a un gasoil à 2,40, on voit dans nos... Quand on suit nos chiffres d'affaires, on voit qu'à ce moment-là, on a une baisse de fréquentation conséquente. Parce qu'en fait, après le Covid, globalement, on fait en 2021 pas une si mauvaise année. Même si je ne suis pas dans un business qui a fleuri parce que les gens étaient contents de venir boire une bière en terrasse chez moi. Ce n'est pas mon travail. Mais on a fait quand même une année 2021 pas mal. Je pense qu'il y a eu pas mal d'événements des entreprises, de la réunion, des séminaires. Enfin, je veux dire, il a fallu un moment reconstruire tout ce qu'on avait perdu parce que IBM le dit très bien. Hein, IBM fait du télétravail depuis 20 ans. Leur premier problème, c'est de gérer le télétravail. En fait, ça a tué toute initiative de l'entreprise, toute cohésion. Les gens ne se parlent plus, chacun est dans son coin et il n'y a plus de synergie.
Ça a eu des effets collatéraux sur les activités qui faisaient vivre, parce que l'entreprise fait vivre. On parle de ton activité, mais il y a d'autres activités. Tu parlais de l'impact. Donc ça veut dire que toi, aujourd'hui, sur ta capacité à réorienter le business, si tu pars du constat qu'il y a moins de télétravail, il faut bien que tu adaptes ton activité. Est-ce que tu... là, on va revenir sur la franchise. Vous êtes aidé, vous discutez, vous avez de nouvelles... Parce que ça n'a pas impacté que toi, ça a impacté...
Bien sûr.
Ta franchise Classroute, mais toutes les autres...
Oui, bien sûr.
Et là, aujourd'hui, il y a des échanges qui se font... au sein de la franchise, c'est une chose, mais avec d'autres, parce que c'est une vraie problématique dans votre métier.
Alors,
ça a changé complètement la consommation de votre métier.
Oui, il y a des échanges permanents, assurément, puisqu'on travaille... ardemment à faire évoluer et à retravailler notre concept pour le tenir à jour et le tenir à jour aussi en fonction de la conjoncture. Et donc la conjoncture étant pas facile, on y travaille d'autant plus. Donc oui, il y a des échanges. Néanmoins, quand les gens sont chez eux, ils sont chez eux. C'est malheureusement... effectivement, le paradigme a changé. La planète a vrillé de 15 degrés et ces 15 degrés, pour moi, ils comptent double.
Alors, écoute, on va aborder un autre sujet qui est un sujet un peu plus personnel. On va entrer dans une sphère qui est plutôt la sphère du Havre et tes attaches au Havre. T'es un Havrais. On se connaît depuis longtemps, donc je le sais. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Havre? Parce que Radio Girafe Normandie, c'est sa terre de départ, c'est le Havre. Savoir quelle relation tu as avec cette ville et comment... pourquoi tu es revenu d'ailleurs? Parce qu'on est tous partis, mais tu es revenu t'installer au Havre. Pourquoi tu es revenu dans cette ville-là? Ce que tu as constaté depuis ces dernières années? Enfin, grosso modo, c'est quoi ta relation au Havre?
Alors ma relation au Havre, c'est dommage parce qu'on est à la radio, pas à la télé, mais j'ai la chance d'être face à la mer. Là, je vois le clocher de l'église Saint-Vincent, ainsi que la mer et la digue Nord. Et j'ai eu la chance, d'ailleurs pas très loin d'ici, pendant toute ma jeunesse, d'ouvrir mes volets face à ce panorama naturel, industriel. Et pour le coup, aujourd'hui, comme souvent, et c'est mon souvenir, ensoleillé, eh bien, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et effectivement, donc j'ai fait études à Amiens, j'ai vécu à Lille, à Paris. Et après mon petit tour, j'ai décidé de, de créer mon entreprise WAV. Le concept n'existait pas, donc voilà, ça permettait de développer aussi ce créneau dans une ville où
tu te sentais bien.
Où la dynamique naissait, hein, puisque on va pas refaire l'histoire des communistes et de Rufnak en 95, mais on peut taper sur les communistes, mais nous, notre génération, on a beaucoup de chance. Ils nous ont laissé une ville vierge où il y avait tout à faire. Nous, les enfants du pays, on a cette chance, quoi.
Et sans rentrer dans la politique, il faut avouer que c'était très rock'n'roll. C'est-à-dire que c'était une ville, pour ceux qui connaissent, effectivement, c'était quand même une ville dans les années 80, assez rock'n'roll, très branchée sur les cultures. On a eu la chance de voir Johnny Clegg.
Un seul en cas.
Donc, non, c'est, et cette relation, donc tu viens t'installer au Havre, donc il a fallu aussi que tu viennes.
Oui, que je rapatrie femme, enfant. Alors en fait, le déclenchement, c'est deux choses. Hein. C'est d'abord que ça faisait 10 ou 12 ans que je faisais un métier qui finalement m'intéressait que moyennement. J'avais besoin d'indépendance. Et puis j'avais un enfant qui, mon fils aîné, qui avait quelques mois et pour lequel j'aspirais à ce qu'il vive dans la station balnéaire de ma jeunesse. Enfin, ou en tout cas, pas dans les parcs parisiens. Donc, besoin d'un élément naturel fort, ou la mer, ou la montagne, mais quelque chose de touchant, quoi.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé le terme de station balnéaire. C'est un terme qui commence à naître dans la tête des gens qui ne sont pas forcément dans notre... qui connaissent pas l'œuvre comme on le connaît. Mais c'est intéressant, parce que je pense que c'est de plus en plus la perception qu'on en a. Est-ce que, justement, je te demandais l'évolution, toi qui as connu le Havre, tu parlais de Havre sous l'ère communiste, quelles évolutions notoires tu pourrais donner? Alors, il y a l'architecture, effectivement, on est patrimoine mondial de l'UNESCO, mais au-delà de ça, dans le vivre au Havre.
Dans le vivre au Havre, en fait, c'est marrant parce que la relation au Havre, elle est surtout, liée à la mer. Donc l'évolution du centre-ville, l'évolution de l'urbanisme, l'évolution de la population qui est en train de se faire là, hein, puisque le patrimoine mondial, la gestion de Monsieur Rufnak et d'Edouard Philippe redore aussi le blason de la ville. Enfin, il y a une dynamique qui fait que c'est toujours plus attrayant, ou en tout cas... mieux vu. Et d'ailleurs, on le voit quand on a des copains qui viennent de l'extérieur, ils sont toujours très surpris de ce qu'ils en voient, parce que les gens ont des a priori sans en avoir aucune expérience. On juge toujours un peu vite. Et en fait, moi, l'intérêt, ça a toujours été effectivement le fait qu'on vive dans une ville qui soit dans un périmètre et une dimension vraiment facile, c'est-à-dire qu'on peut traverser la ville plusieurs fois dans la journée en 10 minutes. On peut accéder à la mer.
C'est vrai qu'on a une plage en plein centre-ville.
Une plage, on a 2,5 km de plage en centre-ville, orientée plein sud. Et ça, je pense qu'à part Nice, c'est quasi unique en France.
Ouais. Bah justement, en parlant de ça, je voudrais conclure sur l'aspect entreprise. Si tu avais quelques conseils à donner pour un entrepreneur qui voudrait s'implanter au Havre, justement venir nous rejoindre dans ce beau panorama, Tu donnerais quoi, quoi aujourd'hui, un conseil avec le recul que tu as sur l'entreprise, et si c'était à refaire, est-ce que tu changerais? En tout cas, si tu ne devais pas changer, qu'est-ce que tu préconiserais? Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui voudraient se lancer?
Ouais, d'abord, je lui dirais c'est valable dans n'importe quelle ville, c'est de savoir où il vient mettre les pieds, parce que c'est quand même des choix très engageants. Hein. C'est pas un job salarié où on peut, 2 ans après, dire tiens, bah, finalement, on change. Donc c'est très engageant dans la durée, donc il faut savoir où on met les pieds, il faut que ça satisfasse un équilibre personnel qui sera important dans la difficulté et le sacerdoce qui est la vie de l'entrepreneur. Après, je lui dirais que le Havre peut lui amener énormément de bonnes surprises, parce qu'on a une qualité de vie qui est insoupçonnée. Peu le savent en France, mais c'est très réel. J'ai des enfants qui vont faire du surf à vélo, alors on n'est pas sur les vagues de l'Atlantique, mais moi je fais personnellement du kitesurf, je fais du kitesurf et je regarde l'heure sur l'hôtel de ville. C'est quand même assez incroyable. Et tout ça à 7 minutes de mon bureau, à 5 minutes de la maison, c'est magique. Donc la qualité de vie serait sûrement la meilleure surprise. Après, il y a tout un tas d'infrastructures selon l'activité, hein, mais bon, certains viennent parce qu'il y a une activité portuaire, parce qu'il y a
C'est vrai que la ville, elle a connu quand même une dynamique. On parlait du fait d'être patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, ça, c'est très architectural, c'est peut-être un peu pointu, mais je trouve que, je ne sais pas si tu partages cet avis.
Oui, parce que j'ai vécu dans deux appartements pérés différents, et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Alors, je suis un peu sensible à ça aussi, mais je pense que c'est vraiment sympa, quoi.
Ouais. Alors, écoute, maintenant, on a une petite... une bonne idée de ton parcours, du Havre. J'ai une question aussi sur ton implantation à Rouen.
Oui, tout à fait.
Radio Girafe, c'est Normandie. On est à Rouen. On voudrait aussi élargir au territoire.
Alors, déplaçons-nous.
C'est intéressant. On se déplace 5 minutes sur ce thème-là parce que on connaît historiquement les antagonismes que le Havre.
La querelle de clocher.
On voit bien que c'est en train de se dépasser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, et t'es pas le seul à l'avoir fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs havrais qui ont élargi leur activité ou qui sont allés d'ailleurs s'implanter sur Rouen. Qu'est-ce que Rouen t'a. Alors, pourquoi Rouen? Comment tu as été attiré et quels enseignements t'en retires de cette implantation rouennaise?
Alors moi, c'était du développement économique, hein, puisque je domine la ville d'où je suis et on a 180 degrés de la ville. Enfin, la ville est coupée en deux par la mer, donc Rouen m'a amené à 360 degrés. Voilà, et le 360 degrés, même mathématiquement, il double la superficie de la ville en nombre d'habitants. Hein, on passe de 250 à 500 000. Et un territoire qui draine depuis Évreux, Dieppe, un certain nombre de monde, donc effectivement...
Avec un pouvoir d'achat plus élevé peut-être, non?
Alors, des catégories socio-professionnelles assez différentes, hein, c'est beaucoup plus CSP+, on a plus de cadres, donc on est pour moi un peu plus dans mon cœur de métier, mais bon, surtout j'avais l'opportunité de racheter un restaurant qui existait, et avec un territoire qui était amusant à développer, puisque ça permettait d'envisager de la croissance en multipliant les centres de profit, donc je reviens à l'idée initiale de la franchise, qui est de un moment multiplier le nombre de points de vente. La croissance qu'on peut faire à titre individuel dans la franchise, c'est multiplier le nombre de points de vente. Elle est surtout faite pour ça. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du franchiseur, c'est d'avoir un maximum de franchisés forts, avec un maximum de points de vente, avec un minimum de franchisés en réduisant le nombre de relations humaines. Mmh. Voilà. Donc ça, lui, il refait de l'économie d'échelle aussi, comme ça. Donc ça permettait de me redévelopper. Donc j'ai effectivement, en 2016, donc 10 ans après Le Havre, j'ai fait l'acquisition d'un restaurant qui existait à Bois-Guillaume. C'était un restaurant classe croûte déjà. Et puis ensuite, en 2019, j'ai ouvert à Mont-Saint-Aignan, une grosse, grosse unité au cœur de la Vatine. Le Covid est arrivé 6 mois après, mais néanmoins, on a fait une belle année 2021, donc j'ai continué à me développer, et j'ai ouvert en 2022 un restaurant sur la zone du Madrier à Petit-Couronne.
Donc là aujourd'hui, tu as 4
Tout
restaurants.
Tout à fait, oui.
D'accord. Donc après, tu as une mutualisation, enfin tu mutualises auprès de ces 4
restaurants. Après, une mutualisation sur mes... comme on le fait même avec un ou plusieurs points de vente, sur tous les achats, sur tout ce qu'apporte la franchise. Après... interne à mon groupe, effectivement, j'ai de la mutualisation sur les prestations intellectuelles, sur le management, sur un certain nombre de choses.
Et une dernière question, t'es pas implanté en ville, ça c'est, il y a pas de corner chez Classe Croûte, donc est-ce que c'est une volonté ou
enfin, je me rends alors pas alors compte. C'est des choses qui existent, hein, mais néanmoins, ne travaillons que le midi, que la semaine, dans les zones tertiaires, ça c'est vraiment notre business historique. On a une gamme de produits qui est liée à ça, et c'est très difficile de s'implanter dans des centres-villes parce que d'une part on a des loyers, des droits au bail qui sont très chers pour l'exploitation qu'on en fait. C'est-à-dire que moi je concentre mon chiffre d'affaires entre 9h et 15h. 9h et 15h, ça comprend la livraison. Mais si je suis en centre-ville, je ne fais que de la consommation sur place, et la consommation sur place c'est midi 14h. Midi 14h, 5 jours semaine, au regard des frais qu'engendre la création d'un corner en centre-ville, c'est pas forcément rentable. Et puis, alors pour que ce soit vivant, il faut que ce soit ouvert. Donc pour que ce soit ouvert, il faudrait ouvrir en dehors des heures pendant lesquelles... ce qui n'est plus notre cœur de business, donc 14h, 19h. Et là, moi, je ne sais pas quoi vendre. et je ne sais pas quoi vendre avec la rentabilité que j'ai dans les heures précédentes. Et là, tout à coup, ça manque de sens pour moi.
Ouais, donc c'est vraiment fait pour des zones d'activité. Enfin, il faut que tu aies des entreprises autour.
Alors, quand on a des gros points de vente et une activité économique forte, on peut s'essayer à ça. Il y en a qui l'ont fait, mais néanmoins, ça amène énormément de contraintes. Et ça amène aussi la contrainte de la masse salariale et du fait que vous mettez dans un tout petit point de vente assez peu de monde. Et moins vous avez de monde, moins vous êtes sujet et plus vous souffrez, de l'absentéisme et autres, parce que quand il vous manque une personne sur 15, on gère. Quand vous mettez une ou deux personnes dans un corner en centre-ville, quand il y en a un qui décide de ne pas venir, ça ne fonctionne plus.
Ok, écoute, je te remercie de cet échange. Alors, on va conclure cette interview. Moi, j'ai deux petites questions pour terminer. Je voulais savoir ce à quoi tu pourrais aspirer pour améliorer les choses quand on est créateur d'entreprise. Qu'est-ce qui serait pour toi un élément facilitateur de la création d'entreprise ou qui t'aurait servi il y a de ça 20 ans et qui aujourd'hui pourrait éventuellement te manquer? Est-ce qu'il y a un élément, alors sans rentrer dans les détails, mais quelque chose qui vraiment t'a fait défaut quand t'as lancé ton activité?
Alors pour moi, ça remonte assez loin maintenant, hein, si t'es en 2006.
Ou même encore en tant que chef d'entreprise, il y a peut-être
choses. Oui, j'entends, mais bon, je suis plus trop dans ces problématiques. Mais néanmoins, enfin, moi, j'ai surtout quand même un souvenir de quelque chose d'assez bien construit, d'assez bienveillant, assez facilitateur. Je me souviens, alors moi, j'avais bénéficié de l'ACRE à ce moment-là, donc quand j'avais eu des tickets pour bénéficier de l'expérience à moindre frais, notamment d'avocats pour le droit et la création d'entreprise, également pour l'expertise comptable, qui a été un vrai soutien et reste aujourd'hui un partenaire très important pour moi, parce que c'est lui qui permet de s'assurer, de rationaliser. Enfin bon, voilà, c'est surtout quand on a un développement économique avec des montages financiers et puis des interactions entre différentes sociétés, holdings et autres, ça devient vraiment... En fait, il faut savoir s'adjoindre les services de gens compétents et savoir payer cette compétence, la reconnaître, parce qu'en fait, elle change la vie. Mais voilà, globalement...
Bien s'entourer, finalement.
En fait, la première chose, c'est de bien s'entourer et puis avoir cette dynamique d'aller vers les autres pour aller chercher un maximum d'infos. Puis en fait, après, on trouve assez facilement.
Écoute, un grand merci du temps que tu nous as consacré.
Merci à vous.
Une dernière question.
Longue vie à Radio Girafe, j'espère. Justement, bon courage à vous, puisque vous êtes créateur de...
D'une
activité... assez atypique d'ailleurs, on n'y pense pas, la radio c'est nouveau même.
C'est nouveau, là c'est de l'associatif, d'ailleurs on va te demander, puisque tu fais maintenant partie de la communauté de la girafe, si tu devais te définir, quelle girafe es-tu?
Quelle girafe suis-je? Ça c'est une bonne question. Moi je suis la girafe havraise.
Alors on va avoir un sacré troupeau.
Je pense qu'on va être nombreux. On fera un troupeau, alors c'est bien. Non, je me distinguerai pas tant que ça. Non, je suis quelqu'un de très commun en soi. Donc si j'étais une girafe, je serais finalement assez commun, je pense. Voilà.
Bon, ok. Ça marche. Écoute, un grand merci. Et puis,
merci à vous et bon courage.
À bientôt sur Radio Girafe.
Quand vous voulez, avec plaisir.
Ça marche. Merci. Salut Julien.